Paris Culture, présenté par Quentin Perquis, un samedi sur deux à 18h sur Radio Campus Paris.
Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine et que vous profitez enfin du week-end. Vous écoutez Paris Culture sur Radio Campus Paris, votre nouveau rendez-vous culture. Tout au long de l'année, un samedi sur deux à 18h, c'est le moment pour vous de connaître les bons plans à Paris, quoi voir au cinéma, les nouvelles pièces au théâtre, les endroits sympas pour sortir et même les actus musique. On rencontre aussi des talents émergents ou reconnus, qu'ils soient acteurs, comédiens, chanteurs ou encore musiciens, et parfois même, je vous fais gagner vos entrées, notamment pour des festivals. Pour être au courant des actus de l'émission, je vous invite à me suivre sur Instagram, Quentin-Perquis, P-E-R-Q-U-I-S. Je tiens à remercier tout particulièrement, j'en profite, Christine Zazial, animatrice télé et radio pour TVRN et France Bleu Armorique, qui sera la voix du générique, vous l'avez entendu tout de suite, de l'émission pour la première édition. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Boom dans la rencontre de l'émission. Il est producteur de musique, directeur musical et musicien pour les plus grands. Il nous a accordé une interview exclusive lors de sa tournée avec Angèle. On parlera justement de la fin de cette tournée, 95, 95 dates de concerts à travers le monde, en Europe, mais aussi en Outre-mer, au Canada et aux États-Unis. On évoquera également le nouvel album attendu de Drake. Et puis, nous verrons quoi faire et quoi voir ce week-end au cinéma avec la sortie du film Acide, au théâtre avec la pièce qui s'appelle Petit crime entre amants. Mais tout de suite, si vous êtes, comment dirais-je, dans les transports franciliens, voici l'état du trafic en temps réel sur les lignes de la RATP. Sur les lignes de la RATP en temps réel, je vous informe en fonction de l'état des lignes. Sur la ligne 6, en tout cas, le trafic est perturbé actuellement. Le trafic reprend, mais reste perturbé sur l'ensemble de la ligne en raison d'un accident grave de personnes à l'arrêt Bel Air. Sur la ligne 9 également, il y a un arrêt qui n'est pas desservi à Grand Boulevard en raison d'un malaise voyageur. Heure retour à la normale estimée à peu près aux alentours de 19h. Sur le tram numéro 3A, le 3A, le trafic reprend, mais reste également perturbé sur l'ensemble de la ligne en raison d'un obstacle sur la voie à Porte Dorée et Porte de Charenton. Voilà un petit peu pour le tour de l'infotrafic en temps réel. Pour plus de détails, si vous pouvez et si vous voulez suivre le trafic, vous pouvez également le faire sur l'application Bonjour RATP ou sur le site ratp.fr/infotrafic. Juste avant de parler des sorties au ciné, on revient ensemble sur une actu de la semaine, une actualité qui n'a pas fait la une mais qui a toute son importance. Écoutez. Certaines voitures sont presque autonomes et certains ne sont pas vraiment rassurés à l'idée de devoir laisser sa voiture les conduire seule ou du moins presque seule. La RATP, qui avait déjà montré le souhait de développer une ligne autonome, a franchi aujourd'hui une nouvelle étape de ce projet. Le bus autonome de la ligne 393 rentre dans une nouvelle phase d'expérimentation. En effet, ce lundi 11 septembre, le bus autonome a accueilli des voyageurs à son bord. C'est la première fois en France qu'une ligne de bus autonome transporte des voyageurs. On voit donc une vraie volonté de réinventer la mobilité du quotidien. Cette ultime phase d'expérimentation succède à de nombreux autres tests concluants réalisés ces derniers mois. Alors d'abord de nuit, sans voyageurs bien évidemment, puis de jour, toujours sans voyageurs, mais aujourd'hui c'est le grand saut car le bus se déplace de jour et avec des voyageurs. Mais concrètement, comment ça marche, vous me direz? Eh bien, moi, je vous répondrai alors que ce bus standard d'une longueur de à peu près 12 mètres, il est équipé de capteurs, donc 5 capteurs en tout, 2 lidars, 2 radars et une caméra, et il y a 17 places assises, plus une pour le conducteur, 18. Le sort des voyageurs n'est pas réellement laissé entre les mains de ce bus autonome 100% électrique, vous vous en doutez bien. Il y a un safety driver, alors vous m'excuserez pour mon accent, le conducteur qui a pour rôle d'assurer seulement la sécurité des voyageurs en toutes circonstances. Mais alors, qu'en pensent les usagers? On écoute justement certains voyageurs de ce 393, des propos recueillis par France 3, les journalistes Farid Bendekaï et Philippe Aliès.
Ça a besoin de rodage, a priori. Dans la mesure où c'est quand même un bus sur zone réservée, c'est pas préoccupant.
C'est si bien, mais c'est un peu stressé. Hein.
Bon, je me laisse conduire, je suis pas quelqu'un d'inquiet en règle générale, donc il n'y a pas de souci.
Il y a quand même des problèmes de rythme.
Alors, il y a les stressés, il y a les décontractés, mais en réalité, au-delà de l'éventuelle crainte pour la sécurité, il y a un problème sous-jacent. Vous êtes peut-être douté, c'est celui de l'emploi. Si à terme, les chauffeurs de bus venaient à disparaître pour être remplacés par des machines, comme on vient de le voir, par un bus autonome, on substitue ici encore le capital au travail. Alors certes, il y a de nouveaux emplois de créer, mais alors, si l'ensemble des corps de métier évolue dans ce sens, il n'y aura plus aucun contact avec l'humain, nous communiquerons uniquement avec des machines, bon, J'avoue, l'idée, elle est peut-être extrême. Mais le but, c'est vraiment de porter une réflexion en ce sens. Est-ce que vraiment, cette substitution, elle est indispensable à tout niveau et dans tout secteur ? Je pense que la question reste non répondue pour l'instant. En tout cas, dès 2018, il faut savoir que la France s'est vraiment dotée d'une stratégie de développement des véhicules autonomes. On parle d'une automatisation des transports publics connectés, d'automatisation également au niveau de la logistique du fret, ou encore de développement rapide des assistants de conduite qui contribuent à une intégration progressive des technologies de pré-automatisation, ainsi qu'à une appropriation croissante de ces fonctions par le public, au bénéfice bien évidemment de la sécurité routière et du confort de conduite. Alors, tous ces assistants de conduite se traduisent vraiment par quoi ? Bah, on le connaît dans sa voiture, on l'a tous, on l'a beaucoup en tout cas, c'est le système anti-blocage des roues, l'ABS, l'aide au freinage d'urgence, l'AFU, ou encore le système de surveillance de pression des pneus. Alors, selon une étude IFOP, pour Vierzon Connect, 91% des Français ont une bonne opinion des assistants à la conduite. Alors, si vous souhaitez en connaître plus sur l'ensemble de cette stratégie nationale de développement sur la mobilité routière automatisée et connectée, dont je vous parlais à l'instant, sachez que l'ensemble de ce rapport est disponible sur le site www.ecologie.gouv.fr. Alors vous, chers auditeurs, moi je vous pose la question. Que pensez-vous de ces décisions ? Faut-il réellement faire confiance à cette automatisation des transports ? J'attends vos commentaires sur Twitter avec le hashtag ParisCultureRCP. Et si vous souhaitez sortir ce week-end, si on change un petit peu d'atmosphère dans les jours à venir, voici tout de suite la sortie ciné. À l'affiche des films sortis cette semaine, on retrouve le film fantastique et dramatique Acide, peut-être vous en avez entendu parler, sorti ce mercredi 20 septembre. 1h40 durant lesquelles on retrouve Guillaume Canet, Laetitia Doche et Patience Muchenbach. Dans cette œuvre de Juste Philippota, Selma, 15 ans, grandit entre ses deux parents séparés, Michal et Élise. Des nuages de pluie acide dévastatrice s'abattent sur la France. Dans un monde qui va bientôt sombrer, cette famille fracturée va devoir s'unir pour affronter cette catastrophe climatique et tenter d'y échapper. Voici la bande-annonce.
Selon l'INRS, les pluies 1000 fois plus acides que la normale ont été enregistrées.
On a pas marre de toutes ces merdes, hein.
Je t'en fous la planète, c'est tout.
La fin du monde tous les deux jours.
De toute manière, ça me concerne plus que toi.
Je croyais que c'était pas grave.
Attends, on va pas la ramener à la maison à chaque fois qu'il pleut.
L'acide sulfurique est corrosif pour la peau.
C'est ce bordel.
Qu'est-ce que tu fous, Élise ?
Les yeux, les voies respiratoires et digestives.
20 départements en vigilance rouge à la canicule du jamais vu.
Vas-y,
franchement.
42 degrés attendus dans les rues de la capitale.
Les critiques de ce film sont très positives. Par exemple, CNews affirme que la mise en scène nerveuse est très efficace. La musique rappelle parfois les partitions funestes d'un Vangelis. Le montage est brillamment composé et le casting juste parfait. Fin de citation. Le journal Le Parisien également indique aussi quelque chose de prometteur. Je cite « C'est une course contre la montre parfaitement maîtrisée et un drame familial qui interroge aussi sur les rapports sociaux et sur l'environnement. » Fin de citation. Et puis enfin pour terminer, le journal Sud-Ouest est synthétique puisque ce dernier parle d'un film brillant et brûlant. Le danger du film n'est pas un danger impossible, celui des pluies acides. En fait, au sens où les pluies, seulement ces pluies-là acides, sont des phénomènes qui existent déjà. Guillaume Canet en parle, c'était le 22 mai dernier sur France 5, dans l'émission « C'est à vous ».
Mais les pluies acides existent en fait.
Oui, bien sûr.
On le sait en fait, c'est du dioxyde de soufre et de l'acide nitrique qu'il y a dans l'air à cause de la pollution. Et ça ravage des forêts, mais pour l'instant, pas encore, heureusement, des animaux ou des hommes. Mais ça pourrait le devenir si la pollution augmentait. Mais la qualité, je trouve, du film et le travail formidable de Juste Philippot, qui avait fait La Nuée, qui était un film déjà dans cette tension, dans cette tenue haletante où on est pris par l'atmosphère, par l'ambiance du film. Il a réussi vraiment à faire un film catastrophe, mais en même temps un film intime. C'est-à-dire que ces trois personnes qui sont censées ne pas franchement se retrouver, parce que le personnage que je joue rêve de refaire sa vie, et il peut enfin, il a un bracelet électronique, il va pouvoir enfin retrouver la femme qu'il aime en Belgique, et son ex-femme lui demande de venir chercher sa fille, qui veut un peu reconnecter avec son père, mais qui les deux l'ont un peu lâché quand il a eu ses problèmes avec la police. Et du coup, il se retrouve coincé dans cet exode, dans cette fuite. Et donc, il y a d'abord une histoire intime dans un film catastrophe. Et c'est là que je trouve que c'est très fort, parce qu'on arrive au début du film à s'identifier à des personnages
totalement.
Qui ne sont pas des héros.
Totalement.
Et ce sont des gens simples. Mais quand la catastrophe, l'apocalypse va arriver, on est avec eux, je pense qu'on peut s'identifier. C'est, je pense, toute la réussite du film de Juste.
Alors, dans quelques instants, la météo et juste après, notre chronique sortie musique.
J'te sans vouloir et sans faire de magie. J'sais jamais comment tu souffres, mais je l'imagine. Tout fragile, ton cœur en argile. Elle veut des bisous sur la cheveux, mais j'crois agile. Faut que tu t'en fasses pour eux, mais t'en fais pas pour moi. Même si tu t'habilles mal, mais j'accepte ça pour nous deux. Quand tu me demandes si je peux rester encore un peu, mais t'as mouillé tout le vieux. J'veux pas que tu tombes amoureuse. Tu ailles, c'est de l'or, t'es près du corps. L'argent de la mort, genou là qui sort. Au volant du Cayenne, une bombe comme un Saiyan. J'crois que c'est un alien, mais j'en veux encore. Du ice et de l'or, gun près du corps. L'argent de la mort, je moule à qui sort. Au volant du Cayenne, blonde comme un Saiyan. J'crois que c'est un alien, mais j'en veux encore. Elle a les cheveux dorés, la peau bien bronzée. Elle boit du daiquiri, elle m'appelle mon chéri. On va pas finir l'année, on va se séparer. Sur moi t'as tout misé, mais j'suis qu'un enfoiré. De temps en temps j'te mentais, j'te disais que tu manquais. J'ai pas fini de chanter, à tout moment j'peux sauter. On se tue la santé, j't'ai mal la fille à côté. Même pas envie de l'accoster, j'ai mis mon cœur de côté. Du ice et de l'or, qu'un près du corps. L'argent de la mort, genou là qui sort. Au volant du Cayenne, une bombe comme un Saiyan. J'crois que c'est un alien, mais j'en veux encore. Du ice et de l'or, gun près du corps. L'argent de la mort, genou là qui sort. Au volant du Cayenne, une bombe comme un Saiyan. J'crois que c'est un alien, mais j'en veux encore. Du ice et de l'or, gun près du corps. L'argent de la mort. Au volant du Cayenne, une blonde comme un Saiyan. J'crois que c'est un alien, mais j'en veux encore.
Merci, vous écoutez Paris Culture, il est 18h14 sur Radio Campus Paris, j'espère que vous allez bien. On passe tout de suite directement à la météo pour savoir un petit peu quel temps il va faire sur Paris pour aujourd'hui, pour demain et puis pour les jours également à venir. Aujourd'hui, vous l'avez vu, c'est un petit peu frais encore, mais ça va rester ensoleillé en tout cas toute la soirée. C'était la technoparade cet après-midi. Je pense que vous n'avez pas eu très chaud, 18 degrés pour les maximales. Demain, ce sera un petit peu plus chaud et on reste ensoleillé. Ça, c'est cool, on reste ensoleillé jusqu'à mardi prochain. Donc ça, déjà, c'est nickel. Les températures, elles aussi augmentent, c'est ce que je disais. Donc, par contre, demain matin, c'est encore un peu frais, 9 degrés. Mais en revanche, dans l'après-midi, ça augmente pas mal, 22 degrés. Lundi, c'est pareil, les températures augmentent, 24 degrés et puis 25 degrés. Mardi et mercredi, par contre, c'est 23 mai avec un petit peu plus de nuages. Mais enfin, bon, il pleut pas, c'est le principal. Jeudi, pareil, ensoleillé, 23 degrés. Vendredi, par contre, c'est le début des pluies, 21 degrés. 21 degrés samedi également, mais avec du soleil. Et dimanche prochain, normalement, parce que c'est dans une semaine, il fait un petit peu de pluie avec 21 degrés pour les maximales. Voilà un petit peu pour le point météo. On s'organise tout de suite maintenant. Enfin, je voulais vous dire aussi que l'ensemble de ces prévisions, elles sont disponibles sur météofrance.com. Tout de suite, voici Sortie Musique, une chronique écrite par Thomas Kemar. Nous quittons le 7e art pour nous tourner vers la musique et ses actualités. Cette semaine, au programme, nous allons parler d'Angèle, d'intelligence artificielle, puis nous prendrons la mer direction l'Amérique pour prendre des nouvelles d'un des projets les plus attendus de l'année. La chanteuse belge a mis fin il y a quelques jours à sa tournée XXL nommée 95. 95 dates de concerts à travers le monde, en Europe mais aussi en Outre-mer, au Canada et aux États-Unis. Une tournée qui s'est prolongée tout au long de l'été puisque Angèle et ses musiciens se sont déplacés dans de nombreux festivals, notamment le Delta Festival, et ce pour le plus grand plaisir de ses fans. À l'occasion de sa dernière date à la Fête de l'Humanité, elle a chanté une reprise piano-voix de l'un de ses hits de l'été, Sayan, l'un des hits pardon, de l'été, initialement une collaboration entre les rappeurs Gazo et puis Eus l'Enfoiré. Jusque-là, rien de surprenant me direz-vous, Angèle est une habituée des reprises, elle en partageait d'ailleurs souvent sur son compte Instagram. Seule particularité, cette cover avait été réalisée cet été à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Postée sur la chaîne YouTube de son créateur, la vidéo a cumulé à ce jour plus de 4 millions de vues en créant avec elle un véritable buzz. Au vu de la popularité de ce titre, Angèle a donc choisi d'offrir une version plus officielle à ses auditeurs, une version live qui est venue boucler cette boucle de cette épopée européenne et numérique. Nous venons de le voir, l'intelligence artificielle est en train de prendre de plus en plus de place lorsqu'il s'agit de créer de la musique. Mais elle gagne aussi du terrain sur la manière dont nous la consommons. Toutes les plateformes de streaming s'interrogent aujourd'hui à ce sujet et souhaitent intégrer ces nouvelles technologies au sein de leur application. Mais Spotify reste à ce jour le plus innovant dans ce domaine, hein, puisque et semble même disposer d'une petite longueur d'avance par rapport à ses concurrents. Le géant suédois avait lancé en août dernier un DI artificiel capable de mixer et de créer de véritables sets en fonction des performances de l'auditeur et surtout de ses préférences. Alors rassurez-vous, Spotify n'est pas encore prêt de remplacer les DIs en festival. Imaginez-vous un monde où les affiches de nos événements préférés ne comptent que les noms artiste virtuel. Honnêtement, je pense pas que ça donne à réellement très envie. Mais la route de l'innovation est longue et le service de streaming ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. En effet, tous ces utilisateurs vont bientôt découvrir une toute nouvelle playlist nommée Daylist. Et je pense que vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est vrai que Spotify fait déjà pas mal de pubs à ce sujet. Cette dernière s'adapte à votre humeur, à l'heure de la journée, mais aussi au jour de la semaine pour vous offrir la musique qu'il vous faut à chaque instant de votre vie. Cette intelligence s'appuie sur de nombreuses données que vous transmettez à l'application, attention RGPD, lorsque vous l'utilisez. On a donc hâte de tester ça en vrai et de voir à quel point l'application arrivera à capter nos habitudes ou non. Chose promis, chose due, préparez votre sac, on s'envole, c'est parti. De l'autre côté de l'Atlantique pour parler de Drake et de son futur album qui va à coup sûr faire un grand bruit lorsqu'il sera disponible. Autant dire que les amateurs de rap US sont servis cette année. En effet, après la sortie retentissante du très attendu Utopia de Travis Scott, c'est au tour du rappeur canadien le plus connu du globe de défendre un nouveau projet. Nommé For All The Dogs, cet album est présenté par l'artiste comme un retour aux sources. C'est vrai que Drake avait notamment innové en 2022, à la fois dans les thèmes abordés, mais aussi dans sa structure, en proposant un disque house s'éloignant de ses codes rap et prouvant à tous sa polyvalence. Ce nouvel opus semble aborder des thèmes plus introspectifs, teasé tout au long de l'année au travers d'annonces, la plupart du temps faites en concert, tout est devenu plus concret lorsque Drake a révélé au monde entier la pochette de l'album en août dernier. A noter pour l'anecdote que, cette dernière a été dessinée par son fils de 5 ans, Adonis. Prévu initialement pour ce vendredi 22 septembre, l'artiste a été contraint de reporter la sortie de 2 semaines. Alors actuellement en tournée, Drake préfère prendre son temps afin de publier vraiment un projet le plus qualitatif possible. Ses auditeurs ont le droit pour patienter à un morceau exclusif extrait de l'album en featuring avec la chanteuse SZA. Le titre n'a pas perdu de temps puisqu'il a très rapidement atteint la première place du top 100 global d'Apple Music. De bonnes augures donc pour la suite, même si nous avons peu de doutes concernant le succès de cet album. Rendez-vous donc le 6 octobre prochain pour le découvrir. Et je le rappelle, cette chronique sortie musique d'aujourd'hui a été écrite par Thomas Kemar. Après la musique, je vous parle des pièces actuellement à l'affiche au théâtre. Une sortie sympa et qui change pour le week-end. Chaque semaine, je vous parle d'une pièce de théâtre qui se joue actuellement dans les salles parisiennes à la rencontre des comédiens et aussi des auteurs des œuvres. Cette semaine, dans notre sortie de théâtre, on s'intéresse à la pièce « Petit crime entre amants » de Franck Duhart et mise en scène par Bruno Bachot. Cette comédie est jouée au théâtre La Boussole actuellement, mais profitez-en car elle est jouée jusqu'à la fin septembre uniquement. Alors elle a commencé il y a un petit peu plus de temps, mais moi je voulais vous en parler quand même parce qu'on y retrouve Xavier Fagnon, Margot Faure, Joyce Franck-René et aussi Julien Kirisch. Pour rentrer dans le détail de la pièce, Jenny est mariée à un grand patron new-yorkais. Ce soir, elle a demandé à son jeune amant de tuer son cher et tendre époux. Un plan à la fois machiavélique et très simple. Mais tout se complique quand le mari de Jenny invite par surprise sa nouvelle secrétaire à dîner. Une soirée explosive qui va faire voler en éclats certains secrets inavouables. Et vous, jusqu'où iriez-vous par amour après 700 ans de représentation de petits crimes entre amis? La même équipe vous propose une nouvelle histoire donc avec quatre nouveaux personnages dans le New York des années 50. Cette pièce, elle est vraiment appréciée du public, ça oui, on peut lire par exemple comme commentaire, je cite, « Un super moment à passer avec une belle équipe talentueuse, on a été embarqué du début à la fin dans cette pièce pleine de rebondissements, un régal, je recommande vivement », fin de citation. Alors on l'a dit, Xavier Fagnon, c'est l'un des comédiens de cette pièce, est-ce que son nom vous dit quelque chose ? Parce qu'en fait, il est spécialisé dans le doublage également. Et au sein de l'animation, par exemple, il est notamment la voix française de Maître Mante dans les œuvres Kung Fu Panda. Également du commandant dans la série de films Madagascar et le film Les Pingouins de Madagascar. Et il est également la voix de celle du maire Léodore Lionert dans Zootopie. Il a récemment prêté sa voix à Donkey Kong pour le Super Mario Bros, le film, et il explique justement au sujet du doublage de voix dans l'émission Voix Ouf sur la chaîne Allociné.
De toute façon, nous, on arrive quand même dans, dans un second temps, c'est-à-dire que le travail a déjà été fait d'une certaine manière. Moi, j'ai suivi un acteur que je double souvent, c'est Seth Rogen, et donc du coup, on apporte après, nous, la chance qu'on a, c'est d'avoir l'image. Eux, ils ne l'ont pas quand ils le font. Nous, on a l'image, et du coup, on est porté par ça, et ça rajoute quelque chose souvent. Et bah, voilà, la culture doublage, je crois que c'est ça, quoi. C'est ce qu'on peut rajouter en voyant l'image et à partir de leur travail à eux.
Il est aussi la voix française régulière de Seth Rogen, qui connaît notamment un gros succès avec les comédies potaches Nos pires voisins en 2014. Xavier Fagnon parle justement du doublage de la voix de cet acteur, notamment pour essayer de coller au plus possible à son rire communicatif.
Bah moi, j'essaie de le suivre, de suivre son rire en tout cas. Je sais que c'est un truc très, très identifiable chez lui. Et depuis le début que je le suis, j'ai toujours identifié ça. Après, il a une particularité, c'est qu'il joue en parlant très, très fort. Par rapport aux autres, il est tout le temps, il parle très, très fort. Alors, un peu moins maintenant. C'était d'essayer de rendre ça, mais dans un son pas agressif. Et puis avec des ruptures à la française, quoi, parce qu'il fait beaucoup de ruptures aussi dans ce qu'il fait.
Alors restez avec nous, dans quelques instants nous recevons Boom, il est producteur de musique, directeur musical et musicien pour les plus grands. Il nous a notamment accordé une interview exclusive lors de sa tournée avec Angèle. Vous pourrez retrouver cette rencontre sur Spotify en recherchant le nom du podcast qui s'intitule très simplement La Rencontre. Je vous invite aussi à découvrir l'interview sur Instagram, un autre type d'interview puisque celle-ci était filmée. Recherchez tout simplement sur Instagram Quentin-Perquis, P-E-R-Q-U-I-S, ou encore sur TikTok, elle est disponible cette vidéo, recherchez Perquis Quentin cette fois-ci. Et puis dans la prochaine demi-heure, je vous donne aussi des idées pour sortir demain et ne pas rester sous la couette un dimanche. A tout de suite.
cantan el llanto de cuando me siento solo en mi cuarto, de cuando el balcón no se siente tan alto. Todos quieren la fama, todos quieren el cuarto. Y yo, ¿qué cambiaría la gloria y mi riqueza solo por saber cómo es que tú besas, por sacarte un día de mi cabeza? Pichando y dando palos como Tani. Soy friendly, el amigo en el peño de todas las canis. Lamborghini en PR, el Bugatti en Miami. Campeón contra mi hermano a los Yanni. Domingo tras Francisco, tú no ves el tanning. Ey, tú no ves el tanning. Las estrellas brillan de noche y se esconden de día. Ey, todos hablan de mí sin saber mi biografía. En la vida todo se paga, nada se fía. Mientras tanto yo lo sigo rulo y después de cenar en Sofía. Hoy le meto a otra, confía. Fumando, bebiendo, chingando, fingiendo que ya no pienso en ti. No sé a quién le miento si esto que siento no me
La rencontre aujourd'hui, c'est avec un producteur de musique, directeur musical et musicien pour les plus grands. Aujourd'hui, au comté d'Angèle, sur la Dream Stage du Delta Festival. Bonjour, Boom.
Salut, salut. Comment ça va?
Très, très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'interview, vraiment.
Très content que tu sois là et on va partager un bon moment.
Je l'espère en tout cas. Dans quelques heures, tu seras en plein show devant des milliers de festivaliers. Qu'est-ce que tu attends du Delta Festival? Qu'est-ce qu'on peut attendre en fait de manière générale en tant que musicien quand on fait un festival?
Ben, c'est un peu compliqué, c'est qu'on a, on va dire, on n'attend rien en fait. C'est surtout nous, on vient délivrer un show, donner de la bonne vibe. Il y a des gens qui ont passé tout leur été à attendre ce festival, qui viennent là pour passer, pour voir un show, pour voir des artistes. Et c'est plutôt nous en fait, on doit donner quelque chose aux gens qu'ils attendent, tu vois.
Un concert, ça dure à peu près environ 2 heures normalement pour vous, votre show habituel. Et là, vous donnez en fait un show d'1 heure, 1 heure 15 ce soir, par exemple, à Marseille. Est-ce que c'est pas trop court pour exprimer tout ce que vous auriez voulu exprimer?
Oui, c'est toujours un peu court, mais c'est un format qui se fait souvent l'été, ben déjà parce que de par la chaleur, des fois, t'as des gens, ils attendent toute la journée, ils ont vu 3 ou 4 artistes différents. Donc, si chaque artiste se met à faire 2 heures de concert, au bout d'un moment, les gens, on va les perdre. Donc, ouais, format 1 heure, 1h15, 1h30, ça dépend. Je pense que c'est la bonne, par rapport à l'expérience des gens qui ont fait des festivals, c'est le bon compromis, en fait. 1 heure de show, c'est bien. Tu peux donner, tu peux voir visuellement, t'en as eu pour ton argent, et tu peux aussi voir d'autres artistes.
Effectivement. Et on le disait tout de suite en off également, aucune balance, donc, en préparation du show pour ce soir?
Ouais, c'est ça un peu la force des festivals, c'est que nous, sur Angèle, on a la force d'avoir une belle équipe et... Nous, on est les musiciens, il y a les danseurs sur scène, il y a Angèle, mais on est peut-être une 60aine de personnes à voyager. Et t'as que des professionnels et des gens qui maîtrisent leur art en tout point. Donc, que ce soit les lighters, que ce soit les techniciens, les backliners qui sont sur scène avec nous. Et donc, tous ces gens-là, ils font en sorte que le matos soit prêt, soit efficace, soit ready, tu vois, pour le concert quand nous, on arrive le soir pour jouer directement. Donc, pas de balance pour nous.
Ok, et donc il y a zéro stress, on arrive entre guillemets chez soi où on a quand même l'impression d'arriver dans un nouvel espace et du coup c'est un peu différent quand même.
Franchement c'est la maison, hein. Tous les soirs c'est la maison, c'est un peu dur même des fois parce qu'on enchaîne tellement des concerts, des villes différentes mais on n'a pas le temps de visiter les villes, donc à chaque fois comme on arrive sur scène tout est à la même place, moi j'ai mes petits automatismes à côté de mon clavier, il y a un petit bonhomme qui est là, donc j'ai l'impression que je suis à la maison en fait.
L'été, vous faites des tournées, etc. Mais vous répétez en plus ou pas du tout?
Ouais, énormément. Pour préparer ce show-là, il y a eu beaucoup de répètes qui ont été engagées. Peut-être 2 semaines de répètes, on va dire. Avec 1 semaine dans la salle, on appelle ça des résidences. Et ouais, vraiment, il y a du travail. Il y a du travail pour que le show il soit calé. Là, maintenant, ça va faire 2 ans qu'on en tournée. Donc, nous, maintenant, on ne répète plus. Mais c'est vrai que pour mettre en œuvre ce show, il y a eu beaucoup de travail en amont.
J'imagine, effectivement. Alors toi, tu as l'habitude de faire des festivals, des concerts. Est-ce que tu fais des showcases aussi ou pas du tout ?
Des showcases, un peu moins. J'en ai beaucoup fait quand j'étais jeune, on va dire au début de ma carrière, tu vois. C'est comme tout, mais là, j'en fais pas du tout, quoi.
Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier, toi ? Parce que la création, c'est vraiment différent du live. Ce sont deux moments qui sont totalement différents, pour pas dire opposés, parce que réellement, c'est lié. Tu préfères quoi ?
Franchement, j'ai de la chance avec ce métier-là, c'est de kiffer au jour le jour, tu vois. C'est qu'au tout début, j'apprenais certaines choses, là, j'en apprends d'autres. Et aujourd'hui, si tu me poses la question, je te dirais ce que j'aime vraiment, c'est la création, tu vois. C'est partir de zéro, partir d'un show, travailler avec un nouvel artiste. Il y a son album qui vient de sortir et il vient me voir et me dit voilà, j'ai envie d'avoir un live un peu différent, d'avoir un univers totalement différent, qu'est-ce que tu peux me proposer ? Et c'est vrai que ça apporte une saveur particulière à la musique, tu vois, parce que du coup, j'ai pas été là à la création de l'album, mais je prends partie, tu vois, je prends part à toute la carrière musicale de l'artiste, parce que je vais changer son show sur scène, je vais lui demander qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il aime pas, qu'est-ce qu'il a envie de proposer aux gens, et j'apporte ma touche, tu vois. Et ça, à chaque fois, avec des artistes différents. Et c'est vraiment, c'est un plaisir pour moi, vraiment.
C'est ça. En fait, le morceau est imaginé une première fois. Et vous apportez réellement votre touche ?
Ouais, ça dépend des artistes. Mais ouais, le plus souvent. Le plus souvent, parce que, tu vois, il faut savoir faire enchaîner les morceaux. Il faut savoir apporter un mood aussi différent. Et faut savoir aussi extrapoler le mood qu'il y a de base. Tu vois, il y a des choses en album que tu ne peux pas te permettre. Alors qu'en live, tu peux vraiment te permettre. Et puis là, on a la chance d'avoir des danseurs. Ça fait qu'il y a plein de choses qu'on doit mettre en relief, des breaks, des pauses, des moments, tu vois. Et même Angèle, essaie de la mettre en avant au maximum. Par exemple, à la fin de certains morceaux, il y a des parties chantées qu'il n'y a pas dans l'album parce que ça doit passer en radio, les gens ils vont zapper. Alors que là, on est en concert, on peut se permettre de prendre plus de temps, de transformer des morceaux, de les mettre en piano-voix, tu vois. Là, par exemple, en festival, elle ne le fait pas, mais la plupart du temps, dans les concerts, il y a un moment où ouais, elle se prend 10-15 minutes vraiment piano-voix, tu vois, parce qu'elle joue vénère au piano, elle chante, elle s'accompagne. Donc. Elle prend vraiment le temps de proposer ça à son public, tu vois.
Et toi, t'as des solos aussi également. T'as des moments où on n'entend que toi, non ?
Ouais, il y a des moments. En tout cas, là, sur ce show-là, je crois que j'ai un ou deux morceaux où il y a une partie vraiment basse, public. Pareil, le guitariste, il a un moment où il est mis en avant. Pareil, le clavier, Kélian Hart, il a un moment où lui, il s'exprime aussi. Et le batteur aussi, il s'appelle Aurélien Lefebvre. Et ouais, pareil. Franchement, sur ce show-là, les musiciens, ils sont quand même mis en avant. C'est assez prononcé quand même, la présence des musiciens, et c'est cool.
Et alors justement, histoire de revenir un peu plus sur toi, parce que c'est quand même pour ça qu'aujourd'hui on est là, toi t'as accompagné les plus grands, c'est-à-dire Angèle, Tayc ou encore Gims par exemple. Est-ce que ça a vraiment toujours été une volonté pour toi de faire partie d'un groupe, de jouer de la basse ? Comment on arrive à un tel niveau ? En fait, c'est quoi ton secret finalement ?
Bah moi j'ai toujours été passionné par la musique, tu vois. Moi je viens de l'église, donc du gospel. J'ai vraiment joué dans les églises et toujours dans les formations groupées. Et ouais, j'ai toujours voulu faire de la musique, tu vois, mon métier. Donc pour moi, c'est une chance et je remercie Dieu de me permettre de me donner cette opportunité d'en faire mon métier et d'avoir ce talent-là. Après, j'ai beaucoup travaillé mon instrument, j'ai beaucoup travaillé ma théorie aussi. Et voilà, ça évolue d'artiste en artiste. Les artistes me font confiance, ils en parlent à leurs potes et il y a d'autres artistes qui me font encore confiance et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Là.
On n'a pas les tours de New York, on n'a pas de lumière de jour. 6 mois dans l'année, on n'a pas Beaubourg, ni la Seine, on n'est pas la ville de l'amour. Mais bon, vous voyez. Toutes les histoires. j'ai Saint-Gilles Lacun à qui je dois mon nom. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'as pas manqué. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. T'es ma préférée. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Choisir un camp, ce serait le pire des cauchemars. Tout ça pour une histoire de langue. J'ai vécu mes plus belles histoires en français et en flamand. L'admet c'est qu'une in advance, mais que Bruxelles vaut mon âme. Et si un jour elle se sépare et qu'on ait à choisir un camp, ce serait le pire des cauchemars. Tout ça pour une histoire de langue. J'ai vécu mes plus belles histoires en français et en flamand. L'admet c'est qu'une in advance, d'un que Bruxelles. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'as pas manqué. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime.
Voilà, avec Boom, ce producteur de musique, directeur musical et musicien, enfin bassiste pour les plus grands. Aujourd'hui, il est avec nous, il nous explique qui il est réellement. Et il nous est tout de suite qu'en final, il venait du gospel, c'était son origine. Le gospel, ça te manque pas un peu parce que finalement, c'est plus du tout ce que tu fais.
C'est plus du tout ce que je fais, entre guillemets, tu vois, parce que moi, je continue à aller à l'église, tu vois, je suis croyant. Donc, je continue à jouer, je continue à être avec ma communauté, tu vois. Donc j'en fais toujours et je le lâcherai jamais en vrai. Maintenant, c'est mon métier d'être musicien, d'être bassiste pour des artistes, on va dire populaires, tu vois. Mais c'est mon métier, mais ça ne change en rien ce que je kiffe faire, tu vois. Ce que je kiffe faire, c'est jouer de la musique, jouer ce que j'aime, c'est-à-dire de la black music, de la soul music, de l'urbain. Donc non, ça me permet de faire tout, tu vois. La pop, le commercial, on va dire, c'est mon métier, c'est mon gain de pain. Et il y a tout ce que je kiffe autour, c'est-à-dire le gospel, la black music, c'est ce qui me fait vibrer, tu vois.
Ça fait longtemps que tu fais de la basse, réellement, ou pas?
Ouais, là, ça doit faire 14-15 ans, quand même, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, tu vois, j'ai commencé par la batterie, le clavier, j'ai testé, et puis j'ai vraiment découvert un amour pour la basse, donc ça fait vraiment longtemps que je fais ça, là.
Oui, parce que bon, on va pas tout dévoiler non plus, mais effectivement, sur le show, par exemple, qu'on va voir ce soir, tu fais pas que de la basse.
Ouais, je fais ça reste de la basse, mais je fais du clavier basse, donc je joue sur un Moog Voyager. Et ouais, c'est différent parce qu'il y a tout un doigté à apprendre. Il y a un moment, j'ai dû me poser et travailler des doigtés avec les pianistes et leur dire, OK, comment tu fais tes doigtés, comment tu fais pour délier tes doigts. Et donc, j'ai dû bosser ça. Donc, ça a été une approche différente par rapport à mon instrument qui est la basse, mais ça reste dans le même univers. Je fais des notes graves.
D'accord, et tu prends autant de plaisir finalement.
Ouais, toujours, toujours. Parce que ce qui est vraiment kiffant dans ce genre de boulot, c'est de reproduire ce qui a été fait sur l'album, tu vois. Là, moi, en tant que directeur musical, là où je prends vraiment du plaisir, c'est de me dire, OK, quelqu'un qui a kiffé l'album, il vient au concert, il retrouve la passion qu'il a trouvée sur l'album avec une touche différente, tu vois, avec une émotion peut-être encore plus, encore plus exagérée. Je sais pas comment expliquer ça, tu vois, mais quand il y a des gens qui me disent, ah, j'ai kiffé le morceau, ce que vous en avez fait et tout, c'est cool. C'est-à-dire que d'une, ils ont reconnu le morceau qu'ils ont kiffé de base. Et de deux, ils ont aussi kiffé l'expérience live. Et pour moi, c'est là où, je vais dire, mon challenge, il a été réussi.
Parfois, pour grandir, on regarde au-dessus de soi. C'est vrai, les gens qui sont au-dessus de nous, ça nous permet de se surpasser, d'avoir une force un petit peu. Est-ce que toi, t'as un ou des artistes qui t'ont inspiré pendant ta carrière ou au début de ta carrière?
Ouais, plus des musiciens, tu vois. Des grands musiciens, des grands bassistes, que ce soit les Marcus Miller ou des bassistes de gospel, Andrew Gauchy, Daryl Freeman. Et après, c'est clair que dans le métier que je fais, il y a plein d'artistes que tu regardes, tu vois, les Justin Timberlake, ce qu'ils ont réussi à faire avec leur musique, Justin Bieber actuellement. On regarde aussi maintenant, il y a toute la scène émergente afro qui est en train d'arriver avec les Burna Boy, Wizkid, et qu'ils essaient aussi de proposer quelque chose en live de différent. Donc c'est clair que ça inspire et ça crée un beau challenge. Par exemple, là, moi, je travaille avec Taïk aussi en même temps, qui est en train de vraiment tout exploser sur la scène afro. Et donc voilà, ça fait plaisir parce que tout le monde se regarde, tout le monde s'envoie des messages, on échange avec les musiciens, des autres artistes. Tu sais, il y a vraiment de l'amour entre nous tous. C'est une belle compétition, on va dire, tu vois. Donc pour répondre à ta question, il n'y a pas d'artistes vraiment qui m'ont inspiré à me dire « Ok, je veux faire ça ». C'est plus moi, l'amour que j'ai de la musique qui m'a poussé à être dans cette position-là, tu vois.
En parlant de musique, il y a un style que tu préfères jouer, un style que tu es plus à l'aise ?
Ben, actuellement, j'aime beaucoup ce que je fais, tu vois, c'est-à-dire c'est parce que c'est très différent. Tu vois, que ce soit la pop, là, j'étais directeur musical aussi pour Clara Luciani lors de sa dernière tournée. Et voilà, que ce soit Angèle, Clara, c'est un challenge différent, donc je prends du plaisir. Maintenant, moi, c'est vrai que ce que je kiffe jouer, c'est tout ce qui est black music, tu vois. Black music, que ce soit rap, R&B, blues, rock, soul, tu vois. C'est vraiment black music, c'est là où je me retrouve, on va dire.
Et j'ai un petit peu, effectivement, bon, je connaissais tes goûts, ce que j'avais déjà recherché réellement. Mais finalement, moi, j'aimerais bien rendre un hommage avec toi. Je ne sais pas si tu seras d'accord ou pas. C'est à Tina Turner. À Tina Turner, parce que justement, elle, c'était la reine du rock and roll, mais aussi, elle a excellé dans le gospel. Toi, t'aimes le gospel, t'as un lien avec ça. Et le gospel, selon Ike & Tina, c'était justement un album studio qui était sorti un petit peu il y a un peu de temps déjà, 1974. Est-ce que toi, t'as été touché par sa disparition ?
Bah, touché, ouais, parce que quoi qu'il arrive, ça reste une légende, tu vois. Et quand tu vois toute son histoire, tu dis que, en vrai, elle méritait d'avoir encore plus d'exposition et d'être encore plus élevée, tu vois. C'est ce qui est un peu triste dans ce monde, c'est qu'une fois que les gens meurent, c'est là qu'on décide de les mettre en avant, de les élever, tu vois. Donc ouais, touché. Et puis, dès qu'il y a une légende qui disparaît, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué pour nous, on n'en a pas 10 000 non plus, tu vois. En plus, femme noire qui a réussi et qui excelle, ça reste rare et bravo à elle, surtout après tout ce qu'elle a enduré. Donc ouais, toujours touché. Quand quelqu'un meurt, c'est compliqué. Hein. Whitney Houston, c'est toujours compliqué. C'est des légendes qu'on perd, des gens qui ont impacté la musique. Et au jour d'aujourd'hui, voilà, on voit que les légendes, c'est de plus en plus rare. Donc compliqué.
Carrément. Pour changer un petit peu de sujet, récemment, on a vu des concerts qui étaient interrompus, malheureusement. Des concerts interrompus par des lancers d'objets en plein show. Bon, vous, j'imagine que vous n'en avez pas eu, mais par exemple, Harry Styles, oui, Pink également, Drake également. C'est des incivilités qui, pour moi, sont vraiment pas acceptables. Comment est-ce qu'on perçoit ça quand on est devant les projecteurs, réellement sur scène ? Il y a une peur à la fin ou quoi ?
Bah, écoute, moi, ça ne m'est jamais arrivé. En tout cas, nous, tu vois, moi, jamais sur un concert, ça m'est arrivé jusqu'à présent. Maintenant, après, c'est un peu dur parce que, comme tu dis, des incivilités, les gens, ils veulent faire les malins. Il y a aussi le fait que la montée des réseaux sociaux, les gens, ils ont envie qu'on parle d'eux. Donc pour l'instant, j'ai de la chance. C'est que tous les artistes avec qui j'ai travaillé, ils ont un public hyper respectueux de l'artiste. Donc, il n'y a jamais eu de problème. Et je pense que la sécurité aussi, ils ont bien fait leur travail jusqu'à présent. Donc, non, pas de peur sur scène. On est là, on vient donner du plaisir. Et puis, de toute façon, en général, ces trucs-là, c'est une personne parmi 10 000. Hein. Donc, c'est rien du tout, quoi.
Totalement. Enfin, la musique, on l'a bien compris, c'est quelque chose que tu as dans le sang. Quels sont tes projets pour la suite ? Est-ce que tu pourrais nous donner des petites infos ?
Ben, actuellement, là, j'ai monté mon label là, avec des potes. On est en train de produire des artistes différents. Donc là, la suite, ça va être ça. C'est de la production d'artistes. Donc voilà, nous, notre label s'appelle MMBS. Et donc voilà, il y a plein d'artistes qui vont sortir de là, que ce soit de l'afro, que ce soit de l'urbain, des artistes pop. On est sur plein de projets en même temps. Donc là, la suite, en 2024, ça va être vraiment ça. Après, il y a encore les tournées. Là, je suis sur la tournée de Matt Pokora qui va arriver, il y a Maître Gims aussi qui arrive. Donc il y a aussi l'Arena de Taïk, donc il y aura des projets en parallèle, toujours avec mon métier de directeur musical, mais là le focus principal c'est la production d'artistes.
Ok, très bien. Et puis pour terminer, en deux mots, j'aimerais bien connaître ton plus grand rêve.
Oula, mon plus grand rêve, franchement, plus grand rêve, je sais pas, ce serait peut-être d'encore faire évoluer la musique en France, qu'il y ait de plus en plus d'artistes noirs qui impacte la musique française. Je pense que c'est ça qui nous manque un peu. C'est que plus souvent, un artiste noir, ou que ce soit, on va dire, un artiste étranger, c'est tout de suite un artiste urbain, tu vois. Alors que je pense qu'on a beaucoup de choses à proposer dans la pop.
Merci, Boom, pour cet échange.
Yes, merci à toi. Merci à toi, mon pote.
retrouver cette rencontre avec Boom sur Spotify en recherchant le nom du podcast qui s'intitule très simplement La Rencontre. Je vous invite aussi à découvrir l'interview sur Instagram, recherchez Quentin-Perky ou encore sur TikTok Perky Quentin. Les innovations du monde moderne améliorent-elles vraiment notre futur ? Dans cette chronique, nous parlons des innovations qui pourraient réellement avoir un impact positif sur l'environnement et les sociétés en général. Le CO2 est un composant naturel de l'air que nous respirons. C'est un gaz incolore, inodore et ininflammable, produit par des processus métaboliques et la combustion de fossiles. Il est surtout issu du secteur de transport, de l'industrie et de l'habitat. Celle-ci provoque artificiellement l'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et par conséquent accentue réellement le réchauffement climatique. Ce réchauffement met en péril l'équilibre de la planète, ça on le sait déjà, avec pour conséquence la fonte des glaces et l'élévation du niveau des mers, mais aussi des répercussions climatiques variables géographiquement, précipitations accrues, sécheresses aggravées, phénomènes extrêmes plus fréquents. Le CO2 est souvent un problème en cas d'inquiétude sur la qualité de l'air intérieur. Il est relativement facile à mesurer, hein, puisqu'il est inclus en général dans la surveillance de la qualité de l'air intérieur. Et moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'à Squamish, en Colombie-Britannique, la société d'énergie propre Carbon Engineering souhaite stopper le changement climatique en aspirant le dioxyde de carbone de l'atmosphère. Alors, sa technologie utilise une combinaison de ventilateurs géants et des processus chimiques complexes afin d'éliminer le dioxyde de carbone de l'air. Sa procédure est connue sous le nom de captage direct air, capture. Si ce concept n'est pas nouveau réellement, Carbon Engineering affirme que sa technologie a suffisamment avancé pour qu'elle ait réellement un sens financier et crédible. Carbon Engineering est soutenu par Bill Gates notamment, mais aussi par les géants pétroliers Chevron, BHP et Occidental. Ces partenariats permettront de commercialiser sa technologie en utilisant le carbone capturé pour fabriquer des carburants synthétiques. N'hésitez pas, si vous le voulez en tout cas, à commenter cette innovation sur le Twitter, avec le hashtag ParisCultureRCP. Tout de suite, voici la chronique Sortir à Paris. À Paris, comme chaque semaine, de nombreuses sorties s'offrent à vous. Cette semaine, je vous présente la demeure de Serge Gainsbourg, où tout est resté en l'état depuis son décès le 2 mars 1991. Il est possible de visiter la maison Gainsbourg depuis le 20 septembre dernier, c'est assez récent donc, à la fois lieu d'inspiration et de travail qui a reçu entre ses murs d'illustres invités et abrité une vraie vie de famille. Le 5 bis rue de Verneuil est un élément à part entière de l'œuvre de Serge Gainsbourg. Lieu capital tant dans sa vie personnelle que pour le développement de sa carrière, le 5 bis a été, avec les objets qu'il renferme, conservé intact par Charlotte Gainsbourg après la disparition de son père il y a plus de 32 ans. La maison de Serge Gainsbourg se visite grâce à une bande-son originale créée par Soundwall Collective en collaboration justement avec Charlotte Gainsbourg. Composée à partir d'un fond d'archives sonores, inédit, cette création superpose l'histoire, les archives et les sons collectés dans l'intimité du lieu. Une immersion sonore d'une trentaine de minutes approximativement, durant laquelle le public déambule guidé par la voix de Charlotte Gainsbourg, qui, pas à pas, fait écho aux souvenirs et anecdotes liés à son père et à la maison de son enfance. Serge Gainsbourg, si ça ne vous dit rien, vous allez tout de suite le reconnaître avec ce titre.
Je suis venu te dire que je m'en vais.
Je suis venu te dire que je m'en vais, une chanson écrite, composée et interprétée par Serge Gainsbourg, parue sur l'album Vue de l'extérieur et en single à la fin de l'année 1973. Pour revenir à la maison Gainsbourg dont je vous parlais tout de suite, elle compte, comment dirais-je, environ 25 000 références. Elle est constituée d'objets, d'œuvres de mobilier, de photographies, de documents et de vêtements ayant appartenu bien sûr à l'artiste. Dans cette collection, on retrouve des œuvres majeures telles que L'homme à tête de chouchou de Claude Delanne, le manuscrit original de la Marseillaise de Rouget de Lise ou encore la chasse aux papillons de Salvador Dali. La maison Gainsbourg conserve également un vaste fonds documentaire constitué de plus de 3000 manuscrits, une large archive de la presse ainsi qu'une archive photographique de diapositives et tirages originaux. Je vous ai parlé donc de la maison historique, de la collection également à l'instant, mais il est également possible, et ça faut le savoir, de visiter le Gainsbourg, la librairie ou encore le musée. L'émission touche à sa fin, j'en suis désolé. Merci en tout cas de nous avoir suivis, j'espère que vous avez aimé, j'espère qu'on se retrouvera surtout dans 2 semaines, parce que tous les deux samedis à 18h, c'est Paris Culture, votre émission, votre nouvelle émission maintenant Culture. Et n'hésitez pas vraiment à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, recherchez Quentin-du-bas Perki, P-E-R-Q-U-I-S, ou sur TikTok, Perki Quentin. Et justement, moi je vous donne toutes les news sur ces réseaux, donc restez connectés. On se retrouve dans 2 semaines, faites attention à vous, bye bye.